Ah, vous ! Quand vous parlerez de cette méprise qu'ils ont inventée, quand vous direz que même je ne serais pas morte, que j'aurais pu être sauvée si depuis longtemps ma santé n'avait été perdue. Voilà ce qu'il faut me jurer, docteur. Et comme je ne répondais pas, elle vit ce qui s'élevait en moi. Je pensais qu'elle aimait son mari au point de vouloir le sauver. C'était l'idée qui m'était venue, l'idée naturelle et vulgaire, car il est des femmes tellement pétries pour l'amour et ses abnégations qu'elles ne rendent pas le coup dont elles meurent. Mais la comtesse de Savigny ne m'avait jamais produit l'effet d'être une de ces femmes-là. Ah, ce n'est pas ce que vous croyez qui me fait vous demander de me jurer cela, docteur, ou non. Je hais trop Serlon en ce moment pour ne pas, malgré sa trahison, l'aimer encore. Mais je ne suis pas si lâche que de lui pardonner. Je m'en irai de cette vie jalouse de lui et implacable. Mais il ne s'agit pas de Serlon, docteur, reprit-elle avec énergie, en me découvrant tout un côté de son caractère que j'avais entrevu, mais que je n'avais pas pénétré dans ce qu'il y avait de plus profond. Il s'agit du comte de Savigny. Je ne veux pas, quand je serai morte, que le comte de Savigny passe pour l'assassin de sa femme. Je ne veux pas qu'on le traîne en cour d'assises, qu'on l'accuse de complicité avec une servante adultère et empoisonneuse. Je ne veux pas que cette tâche reste sur ce nom de Savigny que j'ai porté. Oh, s'il ne s'agissait que de lui, il est digne de tous les échafauds. Mais lui, je lui mangerai le cœur. Mais il s'agit de nous tous. Les gens comme il faut du pays. Si nous étions encore ce que nous devrions être, j'aurais fait jeter cette Eulalie dans une des oubliettes du château de Savigny et il n'en aurait plus été question jamais. Mais à présent, nous ne sommes plus les maîtres chez nous. Nous n'avons plus notre justice expéditive et muette. Et je ne veux pour rien des scandales et des publicités de la vôtre, docteur. Et j'aime mieux les laisser dans les bras l'un de l'autre, heureux et délivrés de moi, et mourir enragé comme je meurs, que de penser en mourant que la noblesse de V aurait l'ignominie de compter un empoisonneur dans ses rangs. Elle parlait avec une vibration inouïe, malgré les tremblements saccadés de sa mâchoire qui claquait à briser ses dents. Je la reconnaissais, mais je la prenais encore. C'était bien la fille noble qui n'était que cela, la fille noble plus forte en mourant que la femme jalouse. Elle mourait bien, comme une fille de V, la dernière ville noble de France. Et touché de cela, plus peut-être que je n'aurais dû l'être, je lui promis, je lui jurais, si je ne la sauvais pas, de faire ce qu'elle me demandait. Et je l'ai fait, mon cher. Je ne la sauvais pas, je ne pus pas la sauver. Elle refusa obstinément tout remède. Je dis ce qu'elle avait voulu quand elle fut morte. Et je persuadai. Il y a bien 25 ans de cela. À présent, tout est calmé, silencé, oublié de cette épouvantable aventure. Beaucoup de contemporains sont morts, d'autres générations ignorantes, indifférentes, ont poussé sur leur tombe, et la première parole que je dis de cette sinistre histoire, c'est à vous. Et encore, il a fallu ce que nous venons de voir pour vous la raconter. Il a fallu ces deux êtres, immuablement beaux malgré le temps, immuablement heureux malgré leurs crimes, puissants, passionnés, absorbés en eux, passant aussi superbement dans la vie que dans ce jardin, semblable à deux de ces anges d'autel qui s'enlèvent, unis dans l'ombre d'or de leurs quatre ailes. J'étais épouvanté. Mais, fis-je, si c'est vrai ce que vous me contez là, docteur, c'est un effroyable désordre dans la création que le bonheur de ces gens-là. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mon cher. La pureté de ce bonheur, souillé par un crime dont j'étais sûr. Je ne l'ai pas vu, je ne dirais pas terni, mais assombri une seule minute dans un seul jour.